Bonjour à toutes et à tous, on est sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. Aujourd'hui, on est avec Guillaume, un vigneron qui va s'implanter sur l'Ivry. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donc, on va parler de votre projet qui est donc de planter plusieurs hectares de vignes à l'Ivry. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis votre parcours ?
Bonjour, donc moi c'est Guillaume, j'ai 35 ans, originaire de Saint-Pierre-le-Moutier, né à Nevers, donc 100% du produit du terroir de la Nièvre. Je suis dans le milieu de la vigne et du vin depuis maintenant 6 ans. Après une reconversion, j'étais prof de golf, donc rien à voir. Je fais une reconversion au lycée viticole de Beaune. Pendant 2 ans, je suis en apprentissage sur un domaine de 10 hectares à Pommard. Donc voilà, je me forme là-bas. Par la suite, je m'associe avec 2 personnes pour reprendre un domaine sur la commune de Livry de 13 hectares en agriculture conventionnelle. L'aventure dure 3 ans et donc j'ai quitté ce domaine il y a maintenant 8 mois et aujourd'hui je suis salarié d'un domaine en agriculture biologique sur 20 hectares à Châtel-de-Neuvre. Personne dans ma famille n'est vigneron. Je connais par contre différentes personnes qui font ce métier-là, qui m'ont donné envie, qui m'ont partagé leur passion. Donc c'est ce qui me fait aujourd'hui être ici et avoir envie de monter quelque chose dans ce milieu-là. Voilà, je suis accompagné d'Amber. Amber, elle a 33 ans, elle est néerlandaise. Elle arrive en France il y a 3 ans. Elle veut totalement changer de vie, donc elle s'installe dans le Morvan. On se rencontre là-bas il y a 2 ans et demi. Elle était archéologue en Hollande et ensuite elle était ingénieure de la circulation là-bas. En France, elle décide de changer totalement de métier, radicalement. Et aujourd'hui, elle fait de la conciergerie, donc elle s'occupe de différents logements, accueil, ménage et tout ça. Elle parle 3 langues, elle est très à l'aise dans la communication. On a un petit Gabriel qui a maintenant 1 an. Donc voilà, c'est une super aventure et c'est hyper chouette. Et il y a plein d'idées qui veulent se mettre en place.
Une super équipe pour un beau projet dont on va maintenant parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet donc de planter, de s'implanter, de créer votre propre domaine à Livry ?
Alors le projet, il mûrit déjà depuis un bon moment. Donc moi, comme je disais, ça fait 6 ans que je suis dans ce milieu-là. Et dès le début, je savais que je voulais avoir mes propres vignes et ma terre. Petit à petit, le projet, on le réfléchit. C'est un projet à deux, avec Amber. Tout seul, je ne peux pas le faire. Il faut avoir les ressources humaines et les ressources financières. C'est un projet qui va être forcément long à mettre en place. Des vignes, c'est long à produire. Aujourd'hui, on est hyper motivé. C'est le tout début. On est vraiment au stade du financement. Donc, on a créé une cagnotte sur Internet, du crowdfunding. On fait appel aux dons, on fait appel à toute personne qui voudrait nous rejoindre sur l'aventure, qui voudrait partager notre envie, partager des moments, partager vraiment de faire naître quelque chose. L'aventure, on ne veut pas la faire que tous les deux, on veut aussi la partager. Parce que le vin, c'est aussi ça, c'est des moments de partage et c'est des moments de rencontre. On ne peut pas rester toute seule dans son coin. Donc c'est, en fait, concrètement, c'est implanter 3 hectares en agriculture biologique avec 5 cépages différents, blanc et rouge. Donc 3 hectares en vigne large. Donc en gros, c'est 4000 pieds à l'hectare. Ça nous ferait 12000 pieds au total sur 3 cépages. Alors implanter sur la commune de Livry. Donc Livry, rapidement, c'est une commune qui représente 800 habitants avec un passif viticole, un gros passif viticole parce qu'il y a eu jusqu'à 400 hectares de vignes avant-guerre. Donc le passage du phylloxéra plus la guerre a fait que tout le vignoble a été décimé. Mais il y a une histoire, il y a eu jusqu'à 300 vignerons sur la commune. Voilà, si on prend vraiment, si on englobe tout, donc Saint-Pierre, Le Veurdre et tous les villages aux alentours, ça représentait vraiment beaucoup de vignes. Aujourd'hui, il reste deux domaines existants sur la commune. Donc le domaine Bois Bourbon, donc là où j'ai été chef de culture et où j'ai travaillé pendant 3 ans pour dynamiser ce domaine, où je me suis donné à fond. Donc aujourd'hui, donc 13 hectares sur ce domaine-là et 3 hectares sur un autre domaine de la Périne, dirigé par Fabrice Barle. en agriculture biologique et lui il fait aussi de la charolaise en parallèle. Donc deux domaines, deux entités assez fortes, deux visions de l'agriculture et de la viticulture différentes. Et moi et Amber, on veut rajouter un troisième domaine, mettre notre pierre à l'édifice et pourquoi pas un jour faire venir d'autres personnes. Il y a vraiment de la place. Il y a des terres qui s'y prêtent, des coteaux qui sont encore là, on retrouve encore le passif de la vigne. On croit vraiment en ce projet, la mairie est avec nous, on est soutenu par les collectivités. Voilà, donc il y a encore plein de choses à voir, il y a encore plein de choses à faire sur cette commune qui est hyper dynamique. On a la chance d'avoir un maire qui est là, qui nous soutient, qui fait plein de choses, que ce soit d'une création d'une boulangerie à la création d'une épicerie automatique, enfin... Voilà, là je m'écarte un peu, mais en tout cas, on est très très fiers de faire partie de cette commune et on veut la faire vivre et on veut la faire découvrir à toute personne qui souhaiterait venir. Et la porte est grande ouverte. Ouais.
Vous parliez d'agriculture biologique, de plantation biologique. Pourquoi avoir fait ce choix du bio et c'est quoi les avantages, les inconvénients avec le bio justement?
Alors le choix du bio, ça n'a même pas été une question, ça a été tout de suite, ça a été automatique quoi. Moi j'ai vécu deux expériences, une dans le bio et une dans le conventionnel, donc je sais un peu de quoi il en ressort. Donc avec Amber, il y avait pas de débat, c'était tout de suite, on s'orientait tout de suite là-dessus. Donc aujourd'hui, pour plusieurs raisons, au niveau des sols, préservation des sols, donc pour moi c'est hyper important. Aujourd'hui c'est notre gagne-pain, si on commence à vouloir le triturer et à vouloir le malmener, forcément on aura des soucis. Donc une meilleure structure des sols à long terme, une rétention d'eau beaucoup plus facile face à la sécheresse. On peut pas mieux tomber en ce moment, on est en plein dedans et on sait ce que c'est. Des sols vivants, des sols avec des micro-organismes, de la microbiologie dans les sols, c'est trop important. Ensuite, une réduction des intrants, beaucoup moins d'intrants au niveau de la vigne. Du compost et de l'engrais, mais que organique, pas de minéral. On veut aussi tout simplement améliorer la qualité de nos raisins, donc une expression beaucoup plus fine du terroir. Et beaucoup plus de complexité aromatique dans les vins, sur des terroirs en bio. Répondre au climat, donc ça c'est vraiment la question et le débat actuel, franchement on peut pas passer à côté, on sait ce qui nous tombe dessus. Donc plus de résilience face à la sécheresse, malheureusement on prend des pluies qui sont de plus en plus fortes avec des orages et l'absorption des sols en bio. Normalement se fait mieux que du sol en conventionnel tassé et pas travailler. Une protection de la biodiversité aussi forcément, des haies, des couverts végétaux, tout ça, c'est trop important. Et puis une question économique, aujourd'hui le bio se valorise quand même mieux, et une clientèle qui est quand même beaucoup plus sensible à tout ça, quoi. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui font qu'on s'est orienté tout de suite vers le bio et on fera jamais marche arrière là-dessus, quoi.
Est-ce que c'est un investissement plus fort, plus important, plus conséquent de faire du bio ou ça reste équivalent
Alors oui, c'est plus conséquent, c'est plus de travail, c'est plus d'heures. C'est un investissement humain qui est plus fort qu'en conventionnel. C'est plus d'heures à l'hectare. Donc les prix sont pas les mêmes. Ouais.
Guillaume, on va marquer une courte pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. On est de retour sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. On est avec Guillaume. Vous parliez de 3 hectares de 5 cépages différents. Comment est-ce que ces cépages ils sont choisis? Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi un cépage? Et puis comment on peut les choisir? Comment ça se passe?
Alors, un cépage, en fait, c'est la variété qu'on va planter. C'est par exemple le pinot noir, c'est par exemple le gamay. C'est des cépages, il y en a des milliers. Après, comment on les choisit, c'est en fonction un peu de nos terres. Aujourd'hui, on est capable d'implanter quand même des cépages un peu partout sur notre territoire par rapport à nos porte-greffes. Donc le porte-greffe, en fait, c'est le système racinaire de la vigne. Et ça, c'est quelque chose qu'on va adapter à nos sols. Si on a des sols sableux, si on a des sols argileux, si on a des sols granitiques, on ne va pas mettre le même porte-greffe partout. Donc ça, en fait, le fait de faire des analyses de sol déjà en amont va permettre de choisir le bon porte-greffe et ce qui va pouvoir produire et ce qui va pouvoir résister au mieux, par exemple, à la sécheresse qui va arriver. Donc tout ça, c'est des analyses en amont. Après, le choix du cépage, c'est vraiment le viticulteur qui décide. J'en ai choisi déjà deux en cépage rouge. Le Pinot Noir, parce que son côté emblématique et ses vins hyper frais encore, qui peuvent accepter nos chaleurs et qui ont des buvabilités quand même assez faciles, m'ont tourné vers lui. Le Gamay, un peu pareil. Différent parce que quelque chose qui peut se boire beaucoup plus vite dans la jeunesse, quelque chose qu'on peut commercialiser plus vite et on peut faire des beaux assemblages avec. On peut justement, alors vulgairement, mélanger le Pinot et le Gamay ensemble et qui vont pouvoir produire de belles choses au final. Donc voilà pour mes deux cépages rouges, sachant que ces deux cépages-là sont déjà implantés sur la commune de Livry. Donc c'était aussi ça. Être dans la continuité de l'encépagement de Livry. Ensuite, au niveau des blancs, j'en choisis trois. Le Chardonnay, parce que c'est, je pense, mon cépage préféré en blanc, qui peut être décrié dans différentes manières, qui peut surtout être élevé de différentes manières, qui peut accepter du bois, qui peut accepter de l'inox, qui peut accepter du grès, qui peut... Voilà, il n'y a pas de limite. Donc pour moi, il n'y avait pas de débat sur le Chardonnay. Ensuite, le Chenin. Donc le Chenin, j'y vais un peu à tâtons là. C'est un cépage qui permet aussi de faire beaucoup d'assemblages, qui peut aussi permettre de faire des pétillants, donc c'est intéressant. Je ne l'ai jamais vinifié, je ne connais pas en termes de vinification. Je ne le connais pas dans la vigne, je ne l'ai jamais travaillé. Donc c'est un peu un cépage que je plante un peu à l'aventure, quoi. Et le dernier cépage que je veux planter en blanc, c'est du Tressalier. C'est une découverte en fait au domaine sur lequel je bosse actuellement. C'est un cépage pour moi qui est hyper frais, avec de la tension, de l'acidité. Hyper intéressant aussi au niveau de la culture de la vigne. Et c'est le cépage emblématique du Saint-Pourçain. C'est quand même nos voisins, c'est pas très loin. Pour moi, c'est quelque chose qui peut répondre sur nos terres. Donc voilà, j'ai choisi le Tressalier et j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison.
Donc concrètement, là, année par année, c'est quoi votre plan pour arriver à produire au final après ?
Alors là, comme je vous disais au début, on est vraiment en phase de financement. Donc je ne sais même pas si on peut parler de l'année 1, c'est tellement tôt encore. Mais par contre, j'aimerais vraiment pouvoir implanter en 2027. Donc il y a beaucoup de travail avant. Il faut savoir que en fait, on a acheté notre maison à Livry, on l'a signé il y a un mois, avec les 7 hectares de terre autour. Donc les 7 hectares, on ne pourra pas les implanter parce qu'il y a le schéma et la typographie du terrain fait que je ne peux pas mettre 7 hectares. Et de toute façon, c'est trop grand, je ne veux pas 7 hectares, donc il y aura 3, comme je disais. Donc en fait, on signe il y a un mois, donc c'est hyper frais. On lance le financement il y a maintenant une semaine. On va dire que le projet, on va le démarrer vraiment concrètement suite à ce financement. On va pouvoir aller démarcher différentes banques. Et on va pouvoir commencer à défricher la terre, parce qu'aujourd'hui c'est en état de friche et de bois, donc on a besoin de place et d'éclaircir tout ça. Année plus 1, suite au financement, on commence à planter, donc les premiers pieds. À année 2 et 3, la vigne pousse, donc il faut s'en occuper quand même. Et on va faire en sorte qu'elle pousse jusqu'à année 4. Correctement, et c'est à année, j'espère, 4, si on n'a pas de problème et si tout se passe bien, on pourra commencer à récolter et à vraiment avoir une production donc correcte, année 5, 6, 7, quoi. Donc comme je disais, c'est hyper long et il va falloir être patient. Mais en gros, c'est ça, les grosses étapes du projet, c'est ça.
On va marquer une pause musicale, Guillaume, et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. On est de retour sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. On est avec Guillaume, un futur vigneron qui va s'implanter à Livry. On parlait de financement à l'instant. Vous avez donc lancé une cagnotte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la cagnotte et puis d'autres moyens de financement que vous pouvez avoir ?
Oui, alors on lance la cagnotte en fait il y a une semaine sur Mimosa, sur Internet. Donc c'est un site de crowdfunding vraiment tourné vers l'agricole. Et souvent l'agriculture biologique. Donc en fait, on lance cette cagnotte avec un objectif de 20 000 euros. Et si on veut que Mimosa accepte notre cagnotte, il faut qu'on arrive en fait à 60%, donc 12 000. Donc aujourd'hui, le premier objectif, c'est ça, c'est 12 000 euros, atteindre ce palier-là. Donc là, au moment où je vous parle, on est à 8 600 et quelques, je crois. Donc en moins d'une semaine, on est vraiment content. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. On a fait tourner à la famille, aux amis principalement. Ils ont vraiment joué le jeu. Le but, c'est de partager au maximum. Il n'y a vraiment pas de limite. On peut balancer le lien à qui on veut et où on veut. On a fait des flyers, on a mis un peu partout, à droite à gauche, dans des commerces. Voilà. Comme je vous disais un peu au début, alors oui, de récolter des fonds, mais c'est pas que ça, c'est faire participer du monde, partager le projet, c'est pouvoir permettre aux gens d'adopter des pieds de vigne. Donc en fait, les gens mettent de l'argent, il y a différents montants, ça va de 10 à 1200 euros. Donc plus on va forcément investir dans la cagnotte, plus les contreparties seront intéressantes. Donc on peut adopter un pied de vigne, on peut adopter trois, voilà, on peut adopter un rang, on peut un jour avoir son nom sur la plaque du domaine, on peut devenir mécène du domaine, on peut devenir parrain. Il y a plein de propositions qui s'offrent aux gens qui veulent participer. Et en fait, l'idée, c'est juste pouvoir permettre aux gens de venir un jour nous rencontrer, de boire un canon ensemble et de pouvoir vraiment échanger et un jour permettre, j'espère, de faire venir les gens et de partager, parce que c'est vraiment l'idée du domaine, quoi. Mais en tout cas, Mimosa, super plateforme, on est hyper contents, c'est allé très vite. Une équipe hyper bien, sérieuse, qui nous a dirigés vraiment dans le bon sens. Donc, non, très 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 cool, ouais.
Vous disiez partager, en lisant votre book, en me renseignant sur votre projet, j'ai aussi vu le no-tourisme avec les tiny houses, et c'est plutôt votre femme qui gérait ça. Vous nous parlez de ce projet un petit peu ?
Oui, alors exactement. Alors on a ce projet de vigne, mais pas que. On veut vraiment faire découvrir donc le domaine. Donc le domaine, ce ne sera pas forcément que de la vente et que de la dégustation. On veut vraiment permettre aux gens de vivre dans le domaine, d'avoir une expérience immersive, de venir à ma rencontre et à la rencontre d'Amber, de vivre notre métier à 100%. Pour ça, on veut implanter des tiny houses. Donc la tiny, c'est des petits logements sur remorque qu'on peut déplacer. L'idée, c'est de venir en fait les implanter sur le coteau, à côté de la vigne, donc pas trop proche, parce qu'on veut que les gens soient tranquilles et qu'ils aient pas le bruit des tracteurs et tout ça. Mais on a suffisamment de place, comme je disais, 7 hectares, donc on peut clairement les mettre un peu loin, et on a des bois. Et l'idée, c'est de les mettre en pleine nature et de permettre aux gens de venir profiter et de déconnecter du monde aujourd'hui un peu speed, et de venir profiter de la nature à 100%. On veut absolument développer le local. Donc Amber, en fait, elle serait vraiment rattachée à ça. Donc on veut permettre aux gens de venir, mais quand ils viennent, c'est de découvrir vraiment tous nos produits locaux, que ce soit de la viande, que ce soit du fromage, que ce soit des yaourts, parce qu'on a tout ce qu'il faut en fait à moins de 50 km. On est hyper riche en termes d'artisanat, de patrimoine, on a trop de trucs à découvrir. C'est vraiment, on est hyper sensible à ça. On veut que notre agriculture et notre vie locale puissent avoir une répercussion grâce à ça, quoi. Donc on veut permettre aux gens de venir avec des paniers gourmands, avec des petits déjeuners, et puis tout ça en parallèle, bien sûr, avec des bouteilles du domaine, quoi. Donc ça ferait un package hyper complet, on va dire. Et donc les tiny, donc ça, c'est aussi des investissements qui sont assez lourds. Donc il va falloir aller chercher des financements au niveau des banques, bien sûr. Mais on y croit, et c'est des logements qui sont hyper discrets, qui se font dans la nature, et on veut absolument pas d'impact, enfin très peu au niveau urbain, quoi.
Ce projet touristique, il arrive dans votre plan des années, il arrive plutôt année 6, année 7, ou ça peut même commencer avant que...
Non, justement, le but, c'est de le commencer le plus rapidement possible. C'est de le commencer avant la production de la vigne. On veut défricher le plus rapidement possible notre terre pour, et bien sûr, garder des arbres, et on ne veut pas tout mettre à blanc. Hein. Mais on veut accéder à quelques petits coins pour pouvoir implanter nos tiny, quoi. Alors, c'est des travaux, c'est du raccordement, c'est de l'eau, mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire à année 2 assez facilement, quoi, si les financements sont là.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter concernant votre projet à nos auditeurs ? Est-ce que s'ils veulent vous aider de notre d'une autre manière que financièrement ils peuvent, comment ils peuvent faire s'ils veulent rejoindre le projet?
Alors ils peuvent venir sur place, ils peuvent me contacter ou contacter Amber. On peut toujours trouver des moyens pour nous aider. Faut pas hésiter, le projet, comme je disais, il est vraiment sur une phase. On est au tout début, on a plein d'idées sûrement qui peuvent nous être utiles. Donc rien que ça en fait, rien que nous contacter et nous aiguiller sur un montage, sur du juridique, sur tout ça, il ne faut pas hésiter parce que nous on est demandeurs, c'est pas notre cœur de métier. Donc plus il y aura de monde qui veulent nous aider et mieux on s'en sortira, c'est certain.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter à nos auditeurs concernant ce projet?
Qu'on espère juste pouvoir les accueillir un jour au domaine des lianes et on va tout donner pour y arriver, ouais.
J'ai une petite question du coup, pourquoi le domaine des lianes, pourquoi ce nom?
Alors bonne question, domaine des lianes, alors la vigne tout simplement déjà c'est une liane. À l'état sauvage, si on laisse la vigne et qu'on la coupe pas, elle peut grimper dans les arbres, et c'est comme ça qu'elle a été cultivée autrefois. En fait, quand on a racheté la maison, la butte qui est derrière chez nous, il y a eu de la vigne avant-guerre, et de la vigne est restée à l'état sauvage. Et en fait, en nous promenant un jour, on a vu des grappes pendues à 12 mètres de haut dans les arbres, et on a trouvé ça trop chouette, et on s'est dit, on appellera ça domaine des lianes. Voilà, c'est pour l'anecdote, c'est juste ça.
Merci beaucoup Guillaume.
Merci à vous.
On était sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout de suite, le retour de la musique.